Béatrice ne lui avait pas caché que Marguerite était morte dans des conditions fort suspectes. Jeanne se demandait si elle n'allait pas subir un sort semblable. Elle apprécia peu le repas que Denis d'Hirson lui offrit. L'état de bonheur qu'elle connaissait depuis 8 jours avait fait place brusquement à une atroce anxiété, et elle cherchait à lire son destin sur les visages qui l'entouraient. Béatrice, la voix traînante et toujours vaguement ironique, était impénétrable. Son oncle, le trésorier, lui, parlait à peine, répondait de travers aux questions et montrait tous les signes de la préoccupation. Il y avait là 2 seigneurs, les sires de Licq et de Nédonchel, qui avaient été présentés à Jeanne comme ses escorteurs jusqu'à Hesdin. Elle leur trouvait la mine peu avenante. N'était-il pas chargé d'une sinistre besogne à quelque tournant de route? Nul, s'adressant à Jeanne, ne faisait allusion à sa détention. Tout le monde affectait d'ignorer qu'elle eût jamais été en prison, et cela même ne la rassurait guère. Les conversations, auxquelles elle ne comprenait rien, roulaient uniquement sur la situation en Artois, sur les coutumes, sur l'entrevue de Compiègne proposée par les envoyés du roi, sur les troubles. « N'avez-vous point remarqué, madame, d'agitation sur votre chemin, ni de rassemblement d'hommes en armes ?» demanda Denis d'Hirson à Jeanne. « Je n'ai rien vu de tel, messire Denis, répondit-elle, et les campagnes m'ont paru fort calmes. On m'a pourtant signalé des mouvements. 2 de nos prévôts ont été attaqués ce matin. » Jeanne inclinait de plus en plus à croire que toutes ces paroles n'avaient d'autre objet que d'endormir sa méfiance. Il lui semblait qu'un filet invisible se resserrait. Elle se sentait seule, abominablement seule. La dame enceinte mangeait avec une extraordinaire gloutonnerie et continuait à pousser de gros soupirs en regardant son ventre. Le sire de Nédonchel, homme aux longues dents, au visage jaune et aux épaules voûtées, disait « La comtesse Mao, je vous assure, messire Denis, sera forcée de céder. Usez de votre empire sur elle, qu'elle cède au moins en partie, qu'elle renonce à votre frère. Si dur qu'il nous soit de vous le dire, et qu'elle feigne d'y renoncer, car jamais les alliés ne voudront traiter tant qu'il sera chancelier. Le sire de Licq et moi-même risquons gros à demeurer fidèles à la comtesse. » Tout en faisant mine d'agir avec les autres barons. Plus elle attend, plus son neveu Robert gagne sur les esprits. » À ce moment, un sergent nu-tête et hors d'haleine pénétra dans la salle du repas. « Qu'y a-t-il, Cornillo ?» demanda Denis d'Hirson. Le sergent Cornillo chuchota quelques phrases hachées à l'oreille de Denis d'Hirson. Celui-ci devint blême, rabattit la nappe qui lui couvrait les genoux, sauta de son banc. « Un moment, messeigneurs, il me faut aller voir !» Et il s'enfuit à toutes jambes par une des petites portes de la salle, suivi de Cornillo qui lui collait aux chausses. Leurs pas précipités décrurent dans les escaliers. L'instant d'après, alors que les convives n'étaient pas encore revenus de leur surprise, une grande clameur monta de la cour. On eût dit qu'une armée entière venait d'y entrer au galop. Un chien qui avait dû recevoir un coup de sabot hurlait à la mort. Licq et Nédonchel coururent aux fenêtres, tandis que les femmes d'escorte de la comtesse de Poitiers se tassaient dans un coin de la pièce comme un troupeau de pintades. Auprès de Jeanne, seule était restée Béatrice et la dame enceinte dont le visage avait pris une mauvaise couleur. Béatrice joignit les mains, elle tremblait. Jeanne comprit qu'elle n'était certainement pas de connivence avec les assaillants, mais cela ne rendait pas la situation plus gaie et de toute manière, le temps manquait pour penser. La porte vola plutôt qu'elle ne s'ouvrit, et une 20aine de barons conduits par Soistre et Caumont entrèrent, l'épée au poing en hurlant.
« Où est le traître? Où est le traître? Où se cache-t-il ? »
Ils s'arrêtèrent, un peu hésitants devant le spectacle qui s'offrait à eux. Ils avaient plusieurs motifs de surprise. D'abord, l'absence de Denis d'Hirson, qu'ils étaient sûrs de trouver là et qui venait de disparaître comme derrière le voile d'un enchanteur. Et puis ce groupe de femmes jacassantes ou pâmées, se serrant les unes contre les autres, et qui se voyaient déjà promises à un viol général. Enfin et surtout la présence de Licq et de Nédonchel. L'avant-veille encore à Saint-Paul, ces 2 chevaliers étaient du nombre des conjurés, et voici qu'on les découvrait attablés dans une maison du camp adverse. Les transfuges furent copieusement insultés. On leur demanda combien ils touchaient pour leur parjure, s'ils s'étaient vendus aux Hirsons pour 30 deniers, et Soistre appliqua son gantelet de fer sur la longue face jaune de Nédonchel qui se mit à saigner de la bouche. Licq s'efforçait de s'expliquer, de se justifier.
« Nous étions venus plaider votre cause. Nous voulions éviter des morts et des ravages inutiles. Nous étions prêts d'obtenir par parole mieux que vous par vos épées. »
On le contraignit à se taire en l'accablant d'injures. Dans la cour, les autres alliés continuaient de mener tapage. Ils n'étaient pas moins d'une centaine.
« Ne dites pas mon nom, » souffla Béatrice à la comtesse de Poitiers, « car c'est à ma famille qu'ils en ont. »
La dame enceinte eut une crise de nerfs et s'écroula sur son banc.